Société avec Nick Payne. Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour cette autre édition de Société. Bienvenue à vous. Alors, dans un instant, un peu plus tard, en fait, à l'émission, nous parlons de l'actualité politique française. Il y a beaucoup de sujets intéressants ces jours-ci. Là-bas, il y en a toujours, là, mais de toute façon, nous en discuterons avec Christian Rioux, le correspondant du Devoir à Paris. Nous parlerons notamment de l'islamo-gauchisme dans l'université française. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui s'en inquiète donc de cet islamo-gauchisme à l'université. Puis il y aura un paquet d'autres sujets que nous aborderons avec Christian Rioux. Mais d'abord, nos fidèles collaborateurs pour commenter l'actualité politique beaucoup plus près de nous ici au Québec et peut-être au Canada et en Amérique et ailleurs. Pourquoi pas, mais en tout cas près de nous d'abord. Frédéric Bérard, il n'est pas si près de nous, il est quelque part dans les bois, je crois, chroniqueur au journal Métro. Bonjour Frédéric Bérard.
Moi, fidèle, pour dire oui, vite, mais je vous parle de Villeray ce matin.
Ah oui, vous vous trouvez pas fidèle, vous?
Oui, ben, envers lui, habituellement, oui, et envers l'islamo-gauchisme aussi.
Ah oui, ah bon, malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion d'en parler, mais vous écouterez ça, puis vous réagirez dans une chronique vitriolique. Et celui que vous entendez se bidonner, c'est Frédéric Lapointe, celui qui est passé à un Fred d'être une vedette rock. Il est ancien candidat dans Maurice Richard et le fondateur de la Ligue d'Action Civique. Bonjour, Frédéric Lapointe.
Et en direct de son sous-sol. Bonjour.
Ah bon, alors vous êtes vraiment en confinement plus. Monsieur Patate, là, est-ce qu'on règle ça tout de suite? Frédéric Bérard, vous avez écrit un texte sur cette affaire-là. Alors, éclairons nos éditeurs qui auraient passé la semaine en dessous d'une roche ou d'une patate au four. C'est cette espèce de jouet, ce personnage-là, jouet pour enfants, qui est une patate en plastique. Je connais mal, je vous avoue, je n'ai pas été l'heureux détenteur d'un Monsieur Patate quand j'étais petit. Mais, enfin, bref, c'est un jouet très populaire depuis fort longtemps. Et la compagnie Hasbro, qui le commercialise, a décidé de le dégenrer. Donc, ce ne sera plus Monsieur Patate, ni d'ailleurs Madame Patate, qui existait elle aussi. Ce sera, alors là, je vous entends ricaner, l'individu patate. En fait, ce sera tête de patate, je traduis moi-même, là, potato head. Mais ensuite, bon, suite à cette annonce et au coup de vent qu'elle a suscité, la compagnie a un peu reculé, enfin, décidé d'employer toutes sortes d'euphémismes pour dire que fallait pas qu'on s'inquiète, Monsieur Patate continuerait sa carrière. Alors, je ne sais pas ce qui arrive, mais il y a plusieurs personnes, dont Frédéric Bérard, qui se sont insurgés de ce qu'on s'insurge, en fait, qui ont dit, ah, franchement, pourquoi s'énerver avec ça? C'est une compagnie comme une autre qui fait des études de marché, qui change de nom de marque de commerce. Passons à un autre appel. Ceux qui s'énervent avec ça n'ont pas raison. Alors, je donne tout de suite la parole à Frédéric Lapointe. Est-ce que c'est vrai que c'est un peu nono de s'énerver avec M. Patate?
C'est un coup publicitaire fumant. Si vous ne saviez pas qu'il se vend encore de ces jouets immondes où un individu semble se réduire à un ovale, un œuf, une tête, enfin, c'est absolument dégoûtant comme esthétique. Mais, chose certaine.
Vous savez qu'au début, c'était une vraie patate, hein, dans les années 40,
oui,
50,
plus, je ne sais plus. Oui. En plus, c'est une espèce de jouet qui a l'air de. Enfin, sortir tout droit d'une époque où on était tous pauvres. Donc, je ne sais pas si c'est un hommage ou si c'est un cauchemar, mais il me viendrait
alors,
jamais
quel classisme.
À l'esprit d'acheter un tel jouet.
Oui. Mais donc, est-ce que c'est est-ce qu'on a... Frédéric Lapointe, je vous ouvre la porte, là. Je vous ouvre une porte de garage. Il y a ceux qui s'insurgent, ceux qui critiquent ou qui se surprennent ou qui dénoncent cette affaire-là ne sont pas énervés que par M. Patate. Non, c'est
exact,
parce que c'est une suite de...
Oui, mais il faut voir qu'à un moment donné, on a le marché médiatique, de l'attention médiatique, il se structure. Et lorsqu'on arrive avec une nouvelle absurde comme celle-là, on sait d'avance que ça va mobiliser l'attention. Hein? Il existe la même chose pour d'autres sensibilités. Donc, il y a des questions comme ça là, qui sont, je pense que l'expression un peu politiquement non correcte des adolescents, là, c'est de parler de titre putaclic. Alors, je pense qu'on est tout à fait là-dedans. Si on doit parler d'éléments qui touchent vraiment les gens, là, comme des gens de sexe biologique mâle dans des prisons pour femmes ou de l'accès à des bénéfices liés au genre plutôt qu'au sexe.
Les athlètes olympiques.
De arbitrage dans la société.
Les haltérophiles, anciennement.
Une patate, une moustache, ça, c'est pas important.
Alors, Frédéric Bérard, est-ce que c'est pas ça qui se cache derrière M. Patate? Ce sont les haltérophiles, anciennement hommes, qui maintenant veulent compétitionner comme des femmes? Ou vous comprenez? C'est quand même pas juste M. Patate le problème, là, non?
Je vais vous commenter. Je ne sais plus quoi dire.
Bon, mais passons à un autre sujet.
Sérieusement, là, juste vous faire réaliser que la...
Non, mais je vous pose la question parce que c'est facile, Frédéric Bérard. Et là, on voit que alors vous rentrez dans le giron woke tranquillement parce que c'est l'angle choisi par la faune woke cette semaine. C'est de dire, ah, franchement, ces gens qui s'énervent toujours pour rien. Mais justement, c'est parce que ça arrête jamais ces histoires de chasse au genre, là, non?
Des réflexions en rafale, là. Je sais pas si qui est le bozo qui est allé se plaindre de la bisoune de Monsieur Patate, là, mais pas honneur à vous, monsieur ou madame. Deuxièmement, la bisoune de Monsieur Patate a remplacé un autre débat absolument fondamental. Qu'en est-il du popcorn dans les cinémas? Ah.
Voulez-vous être sérieux un peu, là, s'il vous plaît?
Ah, ben je le suis, c'est ça le problème. Oui. Et évidemment, tout ceci a suivi un autre débat fondamental.
Mais alors, vous êtes en train de dire qu'on est dans une société qui se vautre dans des débats triviaux. Vous êtes pas sur le. Vous êtes sur autre chose que le sujet du genre, là.
Les snowbirds, là. Est-ce qu'on les envoie en quarantaine à l'hôtel ou pas, là? Et aussi, là, est-ce qu'on a le droit au sucre à la crème à Noël, Nick Payne? Pensons-y sérieusement, là.
Le sucre à la crème végétalien, j'espère, au minimum.
Non, mais c'est une société de cochons gras qui se vaut dans son propre bacon.
Ben là, vous êtes spéciste. Je suis pris avec un classiste et un spéciste ce matin.
Mais le pire, c'est que Frédéric a complètement raison. Et le truc du son médiatique, le truc de l'attention médiatique après ça, bon, et tout. Mais moi, c'est juste ça que j'ai voulu écrire. Oui, je trouve ça absolument débile, le fait de vouloir appeler M. Patate, Patate, parce qu'il ne faut pas penser. Je ne sais pas qui était aussi, peut-être qu'on pourrait penser au fait que l'heure de ce que je me rappelle, moi, de M. Patate et Mme Patate, c'est qu'on pouvait leur insérer les accessoires dans le rectum, sauf erreur.
Ah, oh, franchement.
Très sérieusement, donc il y a peut-être un autre problème là aussi, c'est un coup parti. Et on pourrait passer une autre deux semaines à jaser de « mais qu'est-ce qu'on fait avec… »
Nos excuses à ceux qui s'assoient devant leur dîner, et peut-être même devant une bonne patate au four, allez savoir. Mais...
Oui, on peut mettre la moustache au mauvais endroit, effectivement.
Bon, mais c'est ça… Cessons d'être grivois et superficiel, j'allais dire, bien que vos réflexions soient tout à fait profondes, là, comme le beurre qu'ils font sur une patate, mais dites-moi franchement, il n'y a pas, Frédéric Lapointe, le début du commencement de quelque chose comme une sorte d'écœurantite aiguë face à nouvelle gauche morale là, de petits bourgeois qui a tellement pas de problème qu'on se scandalise de ce qu'une patate soit appelée monsieur, jusqu'où est-ce qu'ils sont en train de se casser la gueule, finalement?
Bon, il y a une réaction, forcément. Il y a un côté caricatural qui est accentué par des nouvelles de la sorte, d'ailleurs.
Parce que ça nuit à toute la gauche, ça, non? Il n'y a pas juste exact. Ça à gauche.
Oh, exact. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs personnes.
Il y a Frédéric Bérard aussi.
Et probablement, qui déplore le fait que ça ait trop d'attention, justement, parce que la caricature est défavorable. Mais il reste plus important de non pas ramener le débat à un concours de caricature, ce à quoi il ressemble en ce moment dans l'espace médiatique, mais de revenir à une forme de discipline, c'est-à-dire de se pencher sur les faits, les arbitrages, les conséquences de vraies décisions qui ont une implication dans le public. C'est-à-dire que quelqu'un veuille rebaptiser son jouet, c'est une entreprise privée, elle fait bien ce qu'elle veut. Mais lorsqu'on prend des décisions politiques qui favorisent des groupes au détriment d'autres, ben là, ça devient un vrai sujet d'intérêt public. Lorsqu'on nomme un ministre, par exemple, et qu'il y a une discussion sur les capacités de ce ministre, ben ça, c'est plus important que M. Patat.
On y arrive, justement. Alors, aviez-vous quelque chose à ajouter là-dessus, Frédéric Bérard? J'ai l'impression que vous aviez fait le tour de votre arsenal. Est-ce que la gauche est en train d'être tirée vers le bas par ce genre d'anecdotes?
Je vais juste ajouter très, très rapidement, là. Oui, je trouve ça débile, mais je trouve ça autant récupérateur, instrumentalisant les réflexes de non-gauche woke, ou non-gauche tout court, à vrai dire, dans ce cas-ci, qui s'excite au point de prendre une anecdote et la juger au point de rendre ça comme étant une importance absolument névralgique dans nos sociétés. Ça, je trouve ça tout autant répréhensible.
Oui, mais c'est un buffet. C'est un buffet ouvert. Si vous étiez, vous aussi, un adversaire là, franc de la gauche, vous pourriez pas vous empêcher de sauter là-dessus. C'est formidable quand même, non?
Oui, ben je sais pas.
Oui,
moi, mais
la réponse simple, c'est oui.
Votre porte-parole a répondu pour vous. Passons à un autre sujet. On va rester un peu quand même dans le sujet de l'inclusion, pas des dictats, mais enfin des idées de la gauche ou de la nouvelle gauche, diversitaire, diversitariste, le ministre de la lutte au racisme. Alors, le Québec s'est doté d'un tel titre désormais, d'un tel ministre. C'est le ministre Charrette qui est aussi le ministre de l'Environnement. Les réactions n'ont pas tardé à fuser, les uns accueillant plutôt favorablement, les autres disant « mais comment va faire cet homme pour gérer ces deux dossiers importants? » Les autres encore disant qu'il n'avait pas la bonne couleur de peau pour être titulaire de ce ministère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric Bérard? Moi, je pense à Ottawa, par exemple, le ministre qui s'occupe des Autochtones, c'est un blanc. Il n'y a pas une question de proportion. Il n'y a peut-être pas encore suffisamment de ministres à la bonne couleur de peau dans notre gouvernement pour en trouver un qui sera volontaire pour occuper ce poste-là.
Bon. Il me semble que la question est un peu loadée.
Ben, non, mais j'ai peut-être répondu en la posant, mais c'était pas le but. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Est-ce qu'on aurait... Supposons que... Présumons que Mme Giraud et M. Non, pas M. Patate. l'autre ministre d'origine probablement haïtienne, j'oublie complètement son nom, je suis désolé. Oui, mais voilà, le ministre Carman, Lionel Carman, là, j'ai oublié le nom de l'autre maintenant, mais peu importe. Oui, Mme Giraud. Voulez-vous qu'on recommence? Donc, M. Carman et Mme Giraud ont peut-être tout simplement décliné l'offre de François Legault. À partir de là, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire?
Je crois que c'est le cas. Ça a été rapporté dans les médias qu'ils avaient décliné l'offre et on peut, excuse-moi si je te prends le micro, Frédéric, là, mais on peut penser qu'ils ont décliné précisément parce qu'ils ne souhaitaient pas être l'objet de pression sur la base de leur identité. On entend ça souvent de la part de personnes qui montent dans la hiérarchie.
Oui, pas nécessairement le goût d'être des porte-parole, un peu comme Barack Obama dans une autre échelle. Mais donc,
à partir de ce moment-là, le gouvernement a quel choix? Est-ce qu'il va ne pas suivre la recommandation qu'il a reçue de nommer un ministre responsable? Ben non, donc il va nommer un ministre. Et comme d'habitude, comme lorsqu'on a nommé Yann Lafrenière au ministère des Affaires autochtones, ben tous les fils qui pendent du plafond sont sujets à ce que les chats miaulant plus fort les uns que les autres essayent d'attraper les fils et ça donne un beau concert cacophonique complètement inutile.
Bon, bien sûr.
C'était le cas avec Yann Lafrenière, c'est encore le cas avec le ministre Charest.
Bon, alors laissons miauler les chats et allons au fond du sujet. Frédéric Bérard, est-ce que ça va servir à quelque chose? On a eu par exemple, Marguerite Blais, hein, ministre des aînés, ministre sans portefeuille. On dit souvent que ces ministres-là sont des potiches davantage que des gens qui peuvent prendre des décisions structurantes. On a un peu évité la question en nommant quelqu'un qui est déjà ministre d'un ministère important comme ministre du racisme. Néanmoins, est-ce que ça va donner quelque chose?
Mais non, ça ne donnera rien. Ça ne donnera rien parce qu'on est incapable de s'entendre sur le concept. Un concept qui est trouvé maintenant de manière scientifique.
Ah là, vous parlez du racisme systémique. Oui, supposons que cette personne et vous divergez sur les termes, mais vous comprenez sur le problème du racisme. Est-ce qu'il n'y a pas des gestes qui peuvent être posés quand même?
Ben oui, mais il y a certainement des gestes qui peuvent être posés quand même. Ça, c'est comique, parce que quand j'en...
Alors, est-ce qu'on les posera?
Ben non, on les pose. Ben là, il va peut-être avoir des gugus à gauche, à droite, mais tu sais, comme quelqu'un, quand Jean-François Lisée dit « Non, il n'y a pas de racisme systémique, moi, je veux lutter contre le racisme », là, il dresse une liste de 12 propositions qui sont des luttes au racisme systémique. Je trouve ça quand même assez amusant.
Bon, ben alors, tout le monde est content?
Ben, tout le monde est content, oui. Voyons voir si on sera capable d'aller de l'avant avec ces trucs-là, sachant que pour revenir sur ce que Frédéric disait, ce que vous disiez aussi, est-ce que Carman et Guilbeault ont vraiment refusé? Vous en connaissez beaucoup, vous, des ministres?
Giraud.
Qui refusent des charges
comme tel, venant du premier ministre, ça, je ne suis pas clair du tout. L'autre chose, on dit, ah, ben, vous voyez, j'ai
revérifié. Ben, attendez, ça arrive quand même, des ministres, des membres du gouvernement qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas changer de ministère, ne veulent...
Tu prends ça. Désolé, là. S'il avait vraiment voulu que ce soit Carman, par exemple, ben, il l'aurait nommé, puis ça aurait fini. Là. La réalité, c'est que moi, je ne doute pas que Carman ne veuille pas de cette job-là, sachant qu'il ne peut même pas partir de la prémisse évidente. Il existe du racisme systémique au Québec comme partout ailleurs en Occident, de toute évidence, hein, c'est pas propre au Québec, tout ça. Et là, l'autre affaire, c'est qu'il nous dit, et ça, moi, je trouve ça doublement insultant, il nous dit, ah ben, ils sont trop occupés pour faire ça, fait que j'ai nommé Charrette. Ben oui, Charrette, il est juste ministre de l'Environnement. Ça donne quand même une idée de la priorité qu'acquise à cet effet-là. On peut avoir le temps de donner, et il rajoute à ça, ah ben, il y a une conjointe ou il y a une conjointe, ça c'est pas trop clair, je vais pas me dire dans sa vie privée, qui est d'origine haïtienne. Tu sais, c'est quoi la prochaine affaire aussi? Là? Il est allé dans le Chinatown, là, il a trouvé ça le fun, il a mangé un shishtahouk.
Non, mais attendez, il a fait l'objet du refus d'un propriétaire de lui louer son logement. Il a dû se plaindre à la Commission des droits de la personne et il a gagné. Il connaît, ça lui donne... Écoutez, il me semble que ça va dans le sens de ce qu'on prône souvent à gauche, c'est-à-dire l'expérience vécue quand c'est pas les caractéristiques physiques, en tout cas, là.
Vous avez vu la vidéo il y a une vingtaine d'années, paraître à l'Assemblée nationale quand c'était péquiste, qui parle justement de racisme systémique et qui parle de conclusion d'un observatoire sur le racisme. Ils ont très fou de se passer de la science de cet observatoire-là, blablabla. Bla, bla. Et là, la première affaire qu'il fait comme ministre, c'est faire un tweet disant « Ah, oh, là, j'ai lu cet excellent article, parce que là, évidemment, ils ont trouvé une amie noire qui dit qu'il n'y en a pas de racisme systémique dans le journal de Montréal. » qui, apparemment, serait capable à elle seule de balayer 20 ans d'études d'un seul coup, disant, lisez ça, là, c'est la preuve qu'il n'en existe pas de racisme systémique. Hey, c'est vraiment bien parti. Sérieusement, là, bravo.
Frédéric Lapointe, cette nomination-là peut-elle produire des résultats ou est-ce que c'est un ministre, comment dire, un geste symbolique?
Non, je pense que ça contribue à mettre à l'agenda cette question. Le gouvernement, avec un ministre responsable, va devoir rendre des comptes. Il va d'autant devoir rendre des comptes sur des actions concrètes que son désaccord sur le concept un peu fumeux de racisme systémique dans le Code du Québec ramène cette question-là constamment dans l'agenda. Donc, paradoxalement, le refus du gouvernement d'obtempérer donne du vent dans les voiles du dossier. L'attitude contraire aurait probablement été celle d'un Justin Trudeau, qui est de tout admettre, mais sur le fond des choses, probablement pas agir de façon fort conséquente. Il reste que dans tout ce qu'on lit sur la question des inégalités au Québec, moi je veux bien qu'on amène ça sur le terrain de la science, mais à chaque fois qu'on débat de cette question, on ne débat pas de la science. On débat du refus de quelqu'un de reconnaître quelque chose parce que ce serait scientifique, parce que ça aurait été cité dans une revue de sociologie lue par 12 personnes. Quand on regarde les chiffres, et j'ai eu l'occasion d'en discuter à cette émission à quelques reprises, on ne retrouve pas les prétentions des gens qui disent qu'il y a une telle chose qu'un racisme systémique. On retrouve des exercices de propagande, on retrouve des manipulations de chiffres, je dirais à peu près 3 fois sur 4, mais on ne retrouve pas une telle chose que le système dont on parle.
Bien, Frédéric Bérard, est-ce que vous ne tombez pas en même temps, moi je veux bien que vous soyez convaincu qu'il y a du racisme systémique au Québec, je n'ai toujours pas, je vous le dis là, compris, lu, été mis en contact avec une définition qui fait l'unanimité de ce concept-là, je ne sais pas précisément ce qu'il veut dire, mais je vous crois quand vous dites que vous êtes convaincu qu'il y en a. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est pas un piège qui est celui souvent dans lequel s'enferment les idéologues ou encore là, certains courants politiques qui veulent davantage avoir raison que obtenir des résultats. Alors, on veut absolument que tout le monde accède à la terminologie avant toute chose et tout passe à travers ce prisme-là. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif en même temps? Vous voyez bien que François Legault ne reconnaîtra jamais deux jours avant les élections, ce qui serait terrible pour ses adversaires.
Là, écoutez bien, là. Si vous allez chez le médecin, là, il vous prescrit une petite pilule. J'imagine que c'est le fun qu'avant qu'il vous prescrit de la petite pilule, il sache exactement ce que vous avez. C'est pratique.
Non, mais vous voyez que... Non, mais je vois où vous voulez aller, là, mais, oui, mais je pense que François Legault est capable de faire certains constats. Là.
Vous êtes encore à deux contre un, laissez-moi au moins finir mes phrases.
Ah, ben, inquiétez-vous pas.
Est-ce que... Je veux répondre à Frédéric là-dessus. qui est le mieux placé pour savoir s'il existe du racisme systémique? Est-ce que c'est la Commission des droits de la personne qui engage non seulement des juristes, mais aussi nombre de travailleurs sociaux, incluant des sociologues, des philosophes? Moi, c'est drôle, j'ai pas de mépris pour ces sciences sociales-là. Qui est le mieux placé? Est-ce que c'est Frédéric Lapointe ou la Commission des droits de la personne? Qui est mieux placé? Est-ce que c'est le rapport de la Commission Vient qui dit que tu as 5 à 10 fois plus de chances de te faire écœurer si tu es autochtone par les policiers?
Ah, ben attention, les Autochtones, je pense que François Legault reconnaît presque qu'il y a un racisme, une discrimination systémique-là.
Il a refusé une résolution à cet effet-là pour assurer que les Autochtones n'aient pas de discrimination à même les soins de santé. Là, il faut le faire. La dernière chose, qui est le mieux placé pour savoir s'il existe du racisme systémique, messieurs? Est-ce que c'est vous deux ou même moi? Ou c'est le chef du SPVM qui dit oui, mes membres pratiquent le racisme systémique, il faut s'attarder à ça? Qui est le mieux placé pour savoir si les flics du SPVM pratique le racisme systémique? Est-ce que c'est le chef du SPVM ou c'est Nick Payne, Frédéric Lapointe et Bérard?
Alors, ce jour est à marquer d'une pierre blanche où Frédéric Bérard nous aurait dit que c'est le chef de police qui a raison, ce monsieur blanc, sur la question du racisme systémique.
Il va savoir plus que nous autres, hein?
C'est encore c'était une autre parcelle de prélude à notre future émission complète sur le racisme systémique, ça promet. Changeons de sujet, messieurs, CBC nous apprenait cette semaine, ou il y a quelques jours, oui, c'était cette semaine, je pense bien, que Pierre-Elliott Trudeau avait fait des pressions sur les dirigeants de grandes entreprises au Québec, notamment Paul Desmarais, en leur demandant de mettre le Québec dans le trouble économiquement suite à l'élection du Parti québécois en 1976. Je paraphrase, mais il disait à peu près, vous pourriez pas m'arranger ça pour qu'on ait un 15-20% de chômage? Là, il me semble que ça leur donnerait une bonne leçon. S'en est suivi une chicane entre Québécois et la presse qui n'avait pas relayé la nouvelle. Mais au-delà de tout ça, là, Frédéric Lapointe, est-ce que ça vous étonne le relativement peu de bruit qu'a fait cette nouvelle? Il me semble que dans tout pays qui se respecte, là je parle dans notre cas du Canada, puisque c'est toujours notre pays, d'apprendre que, en tout cas notre pays juridique, constitutionnel, d'apprendre que un chef d'État, en tout cas dans un des pays, des grandes puissances, là, un des pays occidentaux qui ne peut pas être soupçonné de ne pas être une démocratie exemplaire, en tout cas qu'on ne soupçonne pas habituellement de ne pas l'être. Ça vous surprend pas qu'on n'ait pas parlé de ça davantage?
Oh, bon, on en a parlé, mais c'est une révélation à partir d'archives. Les acteurs, c'est d'ailleurs pour ça que les archives sont ouvertes souvent très tardivement, 25 ans ou 40 ans après les faits, parce que les acteurs principaux sont décédés. Mais le système est encore en place et c'est un rappel fort judicieux de ce que lorsqu'on traite des questions géopolitiques et la sécession d'un État, d'un autre État, c'est une question géopolitique, bien là, on est dans autre chose que les messieurs patates, là, pour faire un clin d'œil au débat de tout à l'heure. Les États sont prêts à prendre des moyens extraordinaires pour arriver à leur fin. Et donc, il convient de, lorsqu'on a cette entreprise, que de séparer une province ou un État d'un autre État, bien de savoir ce qu'on fait, de savoir avec quoi on travaille. Alors aujourd'hui, on a Justin Trudeau qui est très gentil, qui s'excuse à tous instants, et on peut penser, par exemple, que discuter de l'intégrité territoriale du Québec en 2021, c'est pas un trop gros problème parce qu'on a des Kalinours à Ottawa. Mais c'est des questions dont il faut traiter avec une extrême prudence parce qu'on ne sait pas si dans 10 ans ou dans 20 ans, on aura un autre processus de séparation du Québec du Canada, et si on aura à ce moment-là à Ottawa un gouvernement aussi agressif qu'a pu l'être Pierre-Elliott Trudeau, le genre de gouvernement très agressif qui pourrait ne pas craindre d'utiliser son armée pour faire respecter, comment dire, des territoires non cédés, par exemple.
Mais alors, Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe parle de la raison d'État. Hein, le besoin de tout faire lorsque l'intégrité de l'État est menacée, par exemple, avoir recours même aux tactiques les plus abjectes s'il le faut, ou en tout cas plus ou moins démocratiques ou plus ou moins éthiques, n'empêche, voici un chef d'État qui manifeste une volonté de s'en prendre à son peuple, finalement. Est-ce que c'est pas très gros quand même?
Moi, je considère que la nouvelle est effectivement importante. Elle est inquiétante. Mais il y a des réflexions à y avoir aussi. Vous me permettrez de les faire ici, même si je sais que je vais me rendre encore une fois très populaire auprès de certains de vos auditeurs. Mais en droit, là, cette affaire-là, on appelle ça du ouï-dire. Un ambassadeur qui aurait entendu de Trudeau, qui aurait dit qu'il pensait parler à un de ses chums qui est riche et qui va faire du trouble. Je suis désolé, là, peut-être que c'est vrai, mais là, les trois sont décédés et il n'y a aucune preuve, non seulement que les paroles ont été prononcées, mais surtout, il n'y a pas vraiment de preuve à l'effet que Power Corp a déplacé des jobs après 76. Power Corp, c'est essentiellement une business de...
Ah non, tout le monde a dit que ça n'était pas arrivé. Hein? Les principaux intéressés n'ont pas obtempéré si tant est que ça a eu lieu.
Je ne suis pas en mesure de savoir si c'est effectivement arrivé ou pas arrivé. Bon, c'est ce qu'on a dit. Évidemment, ça leur donne le beau rôle à quelque part. Mais bon, est-ce que ces paroles ont vraiment été prononcées? L'autre affaire, puis je reviens un petit peu à ce que disait Frédéric, en quelque sorte, si on tombe dans le real politics, qui ne rend pas l'affaire légitime, là, mais reste que cette histoire-là, hein, vous venez de vous en parler, est-ce qu'on aurait raison d'en parler plus, et ainsi de suite, versus, par exemple, ce qui se passe en Catalogne, cette histoire-là, elle nous donne des allures de ticoune, là. Quand Madrid, qui va sacrer en prison des leaders indépendantistes, disons-le franchement, pour sédition et autres, versus un chef de gouvernement qui aurait peut-être dit à un symptôme qui a de l'argent, essaye donc de nuire à la cause indépendantiste, on s'entend qu'on n'est pas du tout dans le même rayon. Est-ce
Alors, au bénéfice de nos auditeurs, je vous enlève après une seconde. Là, c'est l'ambassadeur des États-Unis au Canada qui, on a découvert à travers des documents déclassifiés il y a déjà plusieurs années par le département d'État américain que ce diplomate, donc, expliquait avoir reçu la confession de Paul Desmarais, selon qui Pierre-Elliott Trudeau souhaitait, à l'époque, qu'il transfère discrètement ses employés à l'extérieur du Québec dans le but de faire grimper le taux de chômage. Puis là, il y avait d'autres détails. Ça, c'était dans une communication diplomatique là, rédigée par cet ambassadeur. Mais vous avez raison, il n'y a pas plus de preuves que ça non plus.
Et juste pour finir, Washington, que ça plaise ou non, n'était certainement pas, et n'est toujours pas en faveur, je pense, de l'indépendance du Québec, pour des raisons qui lui appartiennent, qui sont assez classiques là, en géopolitique. Donc moi, ça me surprendrait pas du tout que Washington ait interrogé Trudeau à savoir quel est votre plan de match pour empêcher justement le Québec de devenir indépendant, et que Trudeau dise « je vais parler à mes hommes, il est bien influent, Desmarais, vous connaissez pas, mais parce qu'évidemment, Desmarais aux États-Unis, c'est de la petite bière. » Et bon, on pense que... Est-ce que Trudeau a même déjà dit ces paroles-là Desmarais par la suite? Franchement, c'est pas si clair que ça. Mais que Washington s'inquiète, entre guillemets, ça fait partie de la partie géopolitique classique. Et je vous dirais que si c'était vrai ce que Trudeau avait dit, c'est déplorable, particulièrement dans une démocratie comme la nôtre, particulièrement du fait que Trudeau était québécois. Mais honnêtement, c'est peut-être pas la fin du monde non plus quand on regarde là, l'historique des coups de jarnac qui se sont donnés en matière diplomatique.
Allez-y.
Je répète qu'il faut surtout craindre des décisions que nous prenons aujourd'hui qui peuvent préparer des coups de force plus tard, parce que la question nationale au Québec se posera toujours. En fait, il n'y a probablement que deux issues terminales, et je préfère l'une que l'autre, mais il y aura des tensions entre les deux États et il y aura des tentations du côté du gouvernement fédéral de poser des gestes qui ne ressembleront peut-être pas à ceux de la Catalogne, la Constitution canadienne, la Fédération canadienne, la culture politique est différente ici, mais il y a toutes sortes de coups de force qui peuvent se faire et effectivement, quelques emplois c'est assez bénin, là, comme...
Il y a Frédéric Lapointe là-dessus, le chef d'un parti que vous connaissez bien, le Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui veut qu'Ottawa rende public tous les documents qu'il posséderait sur cette affaire. Pensez-vous que ça va arriver? Puis pensez-vous qu'ils existent, ces documents?
Ils existent certainement. Pendant des années, le conseil privé avait une équipe qui travaillait à préparer non pas tant les négociations avec un Québec ayant voté majoritairement pour la sécession, mais sur toutes sortes de moyens pour l'en empêcher. Ces gens-là existent, ces gens-là parlent à leurs voisins, parlent à leurs femmes, on en connaît quelques-uns. Donc oui, des documents existent, mais non, ils ne seront pas publiés et je comprends très bien pourquoi.
Frédéric Bérard, confiné dans Villeray.
Oui, mais c'est très temporaire, ne vous inquiétez pas.
Oui, oui, on ne veut pas en savoir plus là, sur votre vie privée. Mais donc, vous êtes de passage dans Villeray. Et Frédéric Lapointe, de passage dans son sous-sol, toujours un plaisir et très éclairant de vous entendre. À bientôt.
Merci, monsieur. Au revoir.
Dans un instant, chers auditeurs, le correspondant du Devoir à Paris, Christian Rioux, est avec nous. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, beaucoup de sujets d'actualité nous ont intéressés ces derniers temps. En France, nous avions envie d'en parler avec notre prochain invité. Parmi ces sujets, le redémarrage de ce mouvement de dénonciation du type MeToo, là, où c'était « balance ton porc » à un certain moment. En France, maintenant, ce sont des dénonciations de cas d'inceste, souvent. Le politologue très, très connu, éminent, Olivier Duhamel, qui a fait l'objet d'accusations graves là, par Camille Kouchner, la fille de Bernard Kouchner. Enfin, il nous expliquera tout cela. Cette dénonciation a créé une sorte d'onde de choc et à nouveau, là, d'autres cas se sont manifestés, d'autres dénonciations, une notamment de viol concernant l'ancien présentateur de nouvelles, mais aussi auteur Patrick Poivre d'Arvor. Et puis, toujours en France, bien sûr, la candidature pour la présidentielle de 2022 d'Éric Zemmour. On va demander à notre invité si c'est une chose sérieuse, ça. Et puis, peut-être que nous commençons par ce sujet, l'islamo-gauchisme qui est au plein cœur du débat politique depuis quelques jours parce que la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, s'est montrée préoccupée par ce phénomène. Parlons-en tout de suite, donc, avec le correspondant du Devoir à Paris, Christian Rioux. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous. Dites-moi, l'islamo-gauchisme, on entend cette expression ici beaucoup aussi, en tout cas dans les cercles politiques où on débat ferme. Généralement, c'est pour parler d'une certaine gauche qui marche souvent côte à côte avec les défenseurs, disons, de l'islam, ou voire parfois les islamistes, ou en tout cas, à tout le moins, qui a certains buts communs. Ce sont, pourrait-on dire, des alliés objectifs à certains moments. De l'autre côté de l'Atlantique, l'expression remonte à il y a plus longtemps. C'était à l'origine, je crois, cette gauche qui manifestait aux côtés d'islamistes en appui à la Palestine, je crois.
Oui, ben écoutez, oui, ben l'expression islamo-gauchisme, on la doit notamment en France, en tout cas, du moins, je sais qu'elle était présente dans la littérature, notamment anglo-saxonne, notamment au Royaume-Uni, mais on la doit surtout à Pierre-André Taguieff, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur toute la question de la judéophobie et des groupes extrémistes d'extrême droite en particulier, et Taguieff notait simplement vers 2002 à peu près, au début des années 2000, qu'il y avait un certain nombre de rapprochements entre une certaine gauche, une extrême gauche, je dirais, et des groupes islamistes, notamment liés aux frères musulmans. Hein, on se souvient de Tariq Ramadan à l'époque, ça avait été un étonnement, hein, Tariq Ramadan qui est de la famille même des fondateurs des frères musulmans. événement en Égypte qui était invité dans plein de colloques de gauche en France à cette époque-là. Donc l'expression s'est formée, mais c'est vrai qu'on voit régulièrement aujourd'hui dans les mêmes manifestations, par exemple M. Mélenchon et des groupes clairement islamistes, ou du moins qui prêchent un islam plutôt orthodoxe. Et, bon, je dirais que c'est la ministre Frédérique Vidal qui a relancé l'expression il y a deux semaines là en entrevue. Elle était en entrevue à la télévision. On lui a demandé quelle était l'influence de l'islamo-gauchisme à l'université, et elle a dit que l'islamo-gauchisme gangrenait à l'université française.
En effet, ce sont des mots très forts. Est-ce que c'est suivi d'une intention politique quelconque, une politique, des mesures?
C'est une enquête, en fait, sur l'état de la recherche, je dirais, en France. Et je dirais que l'expression islamo-gauchisme, dans le cas qui nous occupe, était peut-être un peu maladroite, un peu restreinte, parce que la ministre Vidal désigne plus largement l'arrivée en France. Et ça, c'est assez récent, l'arrivée en France, vous savez, de tout ce qu'on appelle les feminist studies, les gender studies, les études décoloniales, ce que certains intellectuels américains ont appelé les grievance studies, vous savez, les études de la récrimination, c'est-à-dire qui sont liées à une population jugée et qu'on considère opprimée. Ça, c'est assez récent en France, hein, et on a vu un certain envahissement de l'université française de ces types d'idéologie et d'études qui viennent directement des États-Unis. Et ce que craint la ministre, en fait, et les gens qui l'ont soutenue, hein, il y a quelques ministres qui l'ont soutenue, il y a eu un tollé, une levée de bouclier dans les universités, hein, 600 universitaires qui ont signé une pétition contre elle, même demandant sa démission. Mais ce qu'elle désigne surtout, c'est elle veut enquêter sur le fait, est-ce qu'on mélange pas, dans le fond, le militantisme ou des projets politiques et la recherche universitaire.
Voilà. Alors, au-delà de l'islamo...
C'est la question qu'elle pose.
Oui. Comment? Oui, ben, j'allais dire, donc, au-delà de l'islamo-gauchisme ou de ce terme, de ce qu'il représente, on comprend que il y a un parallèle très direct à faire avec ce qui se produit ici, au Québec et en Amérique du Nord, là. Donc, c'est ça, cette espèce de prise de contrôle idéologique de l'université par ces groupes qui se disent woke souvent, là, à l'heure actuelle. Là, donc, la nouvelle gauche morale.
C'est exactement ce dont il s'agit, ce dont François Legault a parlé. Frédéric Vidal ici, vous savez qu'au Royaume-Uni, on est sur le point, on vient de déposer un projet de loi, littéralement un projet de loi pour légiférer là-dessus, pour forcer, je dirais, les universités à respecter mieux la liberté de parole, parce que là-bas aussi, comme en France, comme au Québec, il y a eu des annulations de conférences, il y a eu des conférenciers qu'on a chahutés, il y a eu des pièces de théâtre interdites, et donc ça fait, je dirais que l'intervention de Frédéric Vidal fait partie d'un débat qui est loin d'être français seulement. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être beaucoup moins avancé ici qu'aux États-Unis, hein, ce genre de mélange entre le militantisme et la recherche, et donc aussi au Royaume-Uni.
Est-ce que néanmoins le fait de loger ce mouvement-là à l'enseigne de l'islamo-gauchisme exclusivement, jusqu'ici en tout cas, est-ce que ça dit quelque chose sur la réalité française tout de même, non? Est-ce que c'est parce que la question de l'islam et de l'islamisme se pose davantage chez vous?
Oui, probablement, parce que oui, effectivement, la question de l'islamisme est beaucoup plus posée en France. Hein. Enfin, la France accueille la plus grosse population musulmane d'Europe, hein, comme elle accueille d'ailleurs la plus grande population juive d'Europe. Donc, en termes de proportion, et c'est vrai que en France, notamment depuis un mois, on débat un projet de loi dont l'objectif officiel, c'est pas le titre, mais dont l'objectif formel est de combattre ce qu'on appelle le séparatisme islamiste, c'est-à-dire la propagation d'un islam radical dans les banlieues françaises qui est visible, hein, qui est assez évident. Il y a en France des banlieues, des quartiers qu'on considère comme qu'on surnomme les territoires perdus de la République.
Les fameuses zones de non-droit, là.
Oui, oui, absolument, des zones où effectivement on n'a pas l'impression d'être en France, c'est-à-dire on voit que les règles de l'islam s'imposent un peu partout dans la vie quotidienne. Les filles, les jeunes filles qui ne portent pas le voile se font insulter dans la rue, se font traiter de prostituées. Ce genre de choses-là, on voit un communautarisme s'exercer. Il n'y a plus moyen d'acheter d'alcool à l'épicerie parce que on respecte les préceptes de l'islam, etc., etc. Vous voyez, ce sont des choses qui sont connues en France, qu'on voit, que même aujourd'hui tout le monde admet, parce que pendant un certain nombre d'années,
oui, j'allais vous poser.
Exagéré, mais aujourd'hui, à droite comme à gauche, les gens reconnaissent ça. Ils ne sont pas nécessairement d'accord sur les solutions, sur la façon de traiter le problème, mais je pense que c'est aujourd'hui admis. Et donc, effectivement, la question de l'islamisme est plus importante en France qu'ailleurs.
Ben, j'allais vous poser cette question. Vous parliez du séparatisme islamiste. Le ministre Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, je crois, publie un livre là-dessus ces jours-ci.
Oui.
On a vraiment l'impression, mais alors ça c'est un élément parmi tant d'autres, qui donne l'impression que ce discours n'est plus cantonné, n'est plus que l'apanage du Front ou du Rassemblement national, mais vraiment percole vers la gauche désormais. Mais vous dites que les solutions prônées sont différentes plus on va vers la gauche, je le présume. Est-ce que c'est le cas? Si oui, où sont les divergences là-dessus?
Oui, ben absolument. Ben, écoutez, à gauche, évidemment, on a plutôt. Mais je pense que vous avez raison de dire que le constat, je dirais, aujourd'hui est assez majoritaire. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a eu un sondage sur la question des déclarations de Frédéric Vidal, et il y a 66% des Français qui sont d'accord avec ce qu'a dit la ministre. Hein.
Au contraire, des élites universitaires.
Non, c'est ça. Dans les médias, c'est beaucoup plus c'est amusant parce que c'est beaucoup plus controversé à l'université ou dans les médias que dans la population en général. La population en général, on est plutôt d'accord avec ça. Et donc, je vous dirais que le constat d'une forte présence de l'islamisme, d'un islamisme radical en France, dans certains secteurs, et c'est un constat aujourd'hui qui est relativement admis un peu par tout le monde. Et effectivement, on a les mêmes différences en France que partout ailleurs. La gauche a plutôt tendance à mettre en cause les conditions de vie, la pauvreté, une certaine xénophobie ou racisme même dans certains cas, alors que évidemment à droite on aura plutôt tendance à dénoncer une idéologie qui elle se répand et est présente.
J'allais dire pour vous nourrir un peu, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Par exemple, lui et la gauche qu'il représente, où loge-t-il? Qu'ont-ils à dire? Comment arrive-t-il à répondre à cette préoccupation?
Jean-Luc Mélenchon est un cas très, 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 très étonnant et très particulier. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon, aux dernières élections présidentielles, est presque arrivé deuxième. Hein? Il est arrivé troisième, quatrième, mais tout ça s'est joué dans un mouchoir de poste. Il était presque à 20% des voix.
Mais en adoptant une tonalité assez patriote, hein?
Absolument. C'est-à-dire que il y a quatre ans, Jean-Luc Mélenchon a fait une campagne très clairement républicaine. C'est-à-dire il se présentait comme un républicain, défenseur de la laïcité en France. C'est quelqu'un qui considérait que, bon, il fallait pas évidemment interdire le voile musulman dans les espaces publics, mais c'est quelqu'un qui dénonçait le voile. C'est-à-dire le voile comme un symbole d'infériorisation des femmes. Il le disait ouvertement, clairement. Et depuis un an et demi, deux ans, Jean-Luc Mélenchon a viré complètement, a transformé complètement son discours. Et aujourd'hui, il tient un discours beaucoup plus proche de ce qu'on connaît au Québec comme étant Québec solidaire, par exemple, un discours beaucoup plus...
Donc, il a suivi une trajectoire un peu semblable à celle de Québec solidaire. Donc.
Absolument. Et ce qui est étonnant, parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même une gauche un peu classique, traditionnelle, républicaine, laïque, et il se voit, je pense, obligé, parce que les bases sociales de son parti sont en train de se transformer. Jean-Luc Mélenchon, ne recueille à peu près pas de soutien dans les quartiers populaires, dans les milieux ouvriers, qui serait normalement sa terre d'élection. Quand on est à gauche, normalement, c'est le peuple qui vote pour nous, c'est les gens pauvres qui devraient voter pour la gauche. Mais pas du tout, pas du tout. Et on voit bien que les les bases sociales aujourd'hui de Mélenchon et de son mouvement sont beaucoup plus dans à Paris, par exemple.
Bourgeoise, oui.
Oui, c'est ça. Voilà, dans des milieux, je dirais, de la petite bourgeoisie intellectuelle et dans ces milieux-là. Et donc, Mélenchon est un peu obligé de se plier aux nouvelles modes idéologiques qui aujourd'hui arrivent dans ces milieux-là.
Alors, nous sommes partis de l'islamo-gauchisme évoqué par la ministre Vidal, mais on comprend que nous sommes en train de parler finalement de la, du, des questions d'immigration et d'identité plus largement. Je pense, en tout cas, et c'est ce que vous me dites sur Jean-Luc Mélenchon me donne à croire que ça ne va pas très bien pour lui dans les sondages.
Ça va très mal. Il atteint à peine 10 %. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un effondrement hein, quand on pense à au résultat assez extraordinaire qui est fait à la dernière présidentielle. C'est vraiment un effondrement pour lui. Et aujourd'hui, à gauche, c'est un effondrement pour lui, mais pour la gauche en général, parce qu'à gauche, en général, personne n'arrive à faire, à dépasser les 10 % à peu près. Les écologistes le dépassent à peine. Jean-Luc Mélenchon, les socialistes, n'en parlons pas. Les socialistes sont dans le fond de...
N'existent plus, oui. C'est ça.
Oui, c'est ça, pratiquement.
Et à travers tout ça, surgit un nom. Moi, ça m'a étonné. Je m'étonne qu'on en soit rendu là. On parle de la candidature possible et sérieuse d'Éric Zemmour. Alors, pour nos auditeurs qui le connaîtraient moins, c'est à l'origine un journaliste politique, mais il est devenu écrivain, il s'est fait connaître du grand public dans l'émission On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. C'était un critique acéré à l'époque qui détonnait beaucoup du discours qu'on entend habituellement dans les émissions culturelles ou politiques à la télévision. Et il est devenu donc une figure très importante là, du patriotisme, disons, français, mais néanmoins des polémiques. Qui se lance en politique, d'habitude, ça ne fait pas long feu. Ces candidatures-là ne sont pas sérieuses, vraiment. Est-ce que c'est sérieux pour vrai, Christian Rioux?
Écoutez, c'est difficile de répondre précisément à la question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un espace à combler en France qui pourrait peut-être être comblé par lui, mais peut-être aussi par exemple, Marion Maréchal-Le Pen.
Qui est en réserve de la République, oui.
Mm-hmm. Oui, ou par une autre candidature de droite. Là. C'est certain qu'il y a un espace là, c'est-à-dire que il y a aujourd'hui très clairement un certain effondrement de la gauche. D'ailleurs, le premier à l'avoir remarqué, c'est Emmanuel Macron qui a droitisé son programme et son action depuis un certain temps, voyant bien qu'il n'avait plus suffisamment de monde à gauche pour le soutenir. Et donc on sait que les Français sont insatisfaits de l'offre politique actuelle. C'est-à-dire que quand vous demandez aux Français est-ce que vous voulez d'un match Macron-Marine Le Pen aux prochaines présidentielles, à peu près 70 % des gens qui vous disent non.
Ça pose la question de Marine Le Pen davantage que celle d'Emmanuel Macron, ça. C'est là que Zemmour intervient, non?
Oui. Ça pose la question des deux, sauf que pour l'instant, on sent que Macron, effectivement, contrôle un peu plus son camp, je dirais. Mais ça pose la question, effectivement, du camp d'en face. Qui va diriger le camp d'en face? Les Français souhaiteraient que ce soit quelqu'un d'autre que Marine Le Pen, quelqu'un qui peut faire peut-être le pont entre les Républicains, l'ancienne droite, la droite traditionnelle gaulliste, dont une grande partie est rendue aujourd'hui chez Macron, mais il reste aussi des orphelins là-dedans, et le ralliement national, le Rassemblement national, qui s'est beaucoup transformé avec Marine Le Pen. Vous savez que l'orientation que Marine Le Pen a donnée au Rassemblement national n'a rien pas plus grand chose à voir avec celle qui était que lui avait donnée son père. Et donc voilà. Donc il y a un trou politique là. Il y a un espace politique à occuper. Est-ce que Éric Zemmour serait la personne pour l'occuper? Éric Zemmour est quelqu'un qui est un journaliste extrêmement compétent, je dirais. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il est à la télévision à tous les jours aujourd'hui.
Mais sulfureux, quoi qu'on en pense. Mais sulfureux, qu'il le veuille ou non, et quoi qu'on en pense.
Sulfureux dans le sens où Éric Zemmour est quelqu'un qui, sur la question de l'immigration, a une position extrêmement claire, tranchée, radicale, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il considère qu'il faut arrêter l'immigration en France, point à la ligne. c'est ça sa position sur la question de l'immigration. Et il est à peu près le seul à le dire aussi clairement, à l'exprimer aussi ouvertement.
Oui, candidement, j'allais dire.
Il considère que la France ne peut plus accepter d'immigrants, elle n'arrive plus à les assimiler, elle est dans une situation de crise aujourd'hui, et donc qu'il faut... Donc, voilà, et donc c'est probablement, c'est une des raisons, je pense, de son succès, c'est cette façon de assez claire, assez radicale d'avancer sur cette question-là, sans, je dirais, sans les tabous, vous savez, où tout le monde marche sur des œufs, est inquiet de se dire, mais qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va me dire, d'ailleurs, Éric Zemmour est quelqu'un qui est régulièrement poursuivi devant les tribunaux.
Et trouvé coupable à l'occasion.
Qui est dénoncé, dénoncé sur les réseaux sociaux. Il a même été agressé en pleine rue à un moment donné par quelqu'un. Et oui. Donc voilà. Est-ce que ça serait lui? Bon, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que la personnalité d'un journaliste qui est habitué.
Un électron libre, quoi.
Oui, qui est habitué aussi à dire des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, hein, qui même ne plaisent pas des fois à ses propres partisans, à ses propres. Est-ce qu'on peut transformer quelqu'un comme ça en homme politique est-ce que ça peut avoir un succès en politique? Ça, c'est l'histoire le dira. Mais il y a un espace, là, à combler. Est-ce que ce sera lui, ce sera quelqu'un d'autre? C'est difficile à dire.
Et donc, certains diraient qu'il y a une sorte de pont à faire entre les droites. Hein? C'est un peu ce que prône Zemmour lui-même, et oui, c'est un peu aussi le travail de Marion Maréchal.
Éric Zemmour donne toujours l'exemple de François Mitterrand. Zemmour est une bibliothèque politique ambulante. Hein?
Il veut reproduire à droite ce que Mitterrand avait fait à gauche, ouais.
Non, mais oui, exactement. Il donne toujours l'exemple de Mitterrand, c'est-à-dire que François Mitterrand a conquis le pouvoir avec le programme commun en s'alliant avec un parti totalitaire qui prenait ses ordres à Moscou. quand même pas rigolo, là. C'est quand même pas drôle. Le parti quand même qui était pas un exemple de libéralisme. Mais il est arrivé à s'allier à ce parti-là. Il l'a pratiquement désintégré d'ailleurs par l'alliance. Le grand perdant, ça a été le parti communiste. Et il est arrivé à imposer la gauche au pouvoir de cette façon. Et Éric Zemmour donne toujours cet exemple, c'est-à-dire que selon lui, il faut que quelqu'un à droite arrive à faire ça, arrive à prendre le pouvoir et peut-être à désintégrer le Front National, par exemple. Vous voyez?
Oui, à neutraliser d'une certaine façon.
À le faire disparaître. Voilà. C'est l'exemple qu'il donne toujours, qui est assez brillant. Et effectivement, le contexte politique français est un contexte qui peut ressembler, qui pourrait ressembler peut-être à un moment donné à celui-là. On verra. C'est extrêmement imprévisible. Vous savez qu'à un an des présidentielles, toutes les prédictions se trompent presque à coup sûr. Hein.
Oui, presque toujours. Qui eût cru avant la dernière élection ce qui allait se produire?
On prévoyait un match François Hollande-Alain Juppé.
Alain Juppé, en effet. Mais dites-moi...
Alain Juppé n'a pas passé le cap de la primaire et puis François Hollande ne s'est même pas présenté. Donc, vous voyez, c'est à un an avant, c'était ça qu'on prévoyait.
Puisque nous faisons le... Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, puisque nous faisons le tour de la boussole politique, nous sommes passés de Mélenchon au Front National. Au centre, il y a toujours Emmanuel Macron, tout de même, qui cherche malgré tout à ratisser large. On le voit dans ses propos sur le séparatisme islamiste, mais aussi dans d'autres gestes politiques qu'il pose sur d'autres questions. Est-ce qu'il y arrive toujours? Est-il à ce moment-ci en difficulté, comme pouvait l'être, par exemple, François Hollande ou Nicolas Sarkozy à ce moment-ci de leur quinquennat respectif?
Non, je pense qu'Emmanuel, on peut pas dire qu'Emmanuel Macron en ce moment est en grande difficulté. Peut-être que l'épidémie aide aussi. Vous savez, l'épidémie, c'est comme une sorte de brume qu'on met sur la vie politique. Hein. On finit par avoir de la misère à distinguer.
Ça brouille les cartes. Hein?
Oui, absolument, ce qui se passe véritablement. Et par contre, ce qui est certain, c'est que Macron, qui a toujours été un acrobate, hein, parfait du grand écart, je pense, a de plus en plus de difficultés à faire ce grand écart. L'écart est de plus en plus grand, en tout cas. Et il est vrai qu'un jour, vous savez, Macron est quelqu'un qui dénonce le séparatisme islamiste, qui a des mots très durs sur la question d'islam, mais le lendemain, c'est quelqu'un qui va défendre la discrimination positive, par exemple, qui va défendre la nomination, le fait qu'on change le nom des rues, par exemple, pour que ce soit soit des personnes issues de l'immigration et tout ça. Donc, vous voyez, Emmanuel Macron, dès que vous voyez Emmanuel Macron faire une déclaration qu'on pourrait qualifier de droite, attendez-vous que la semaine d'après, il y ait quelque chose dans son gouvernement qui essaie de rééquilibrer les choses. C'est vraiment comme ça.
Est-ce que c'est le fameux « en même temps » de M. Macron? C'est son fameux « en même temps », son expression fétiche?
C'est de plus en plus comme ça, c'est-à-dire Emmanuel Macron, et c'est vrai sur tous les sujets aujourd'hui. Je vous parlais de l'islamisme, je vous parlais de la discrimination positive, on peut penser à l'Europe. Et imaginez, Emmanuel Macron, élu il y a 4 ans pour réformer dans le sens libéral l'économie française, aujourd'hui, qui parle de nationalisme économique.
Alors ça, c'est un effet de la pandémie, hein, notamment?
Comment?
C'est un effet de la pandémie aussi, ça. Non, ça a forcé Emmanuel Macron, comme d'autres chefs d'État...
Mais vous avez vraiment, aujourd'hui, vous mettez 2 discours d'Emmanuel Macron, un il y a 4 ans, puis un aujourd'hui, ils disent exactement le contraire. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron nous dit qu'il faut ramener les entreprises françaises, qu'il faut absolument se protéger, se défendre à l'égard de la Chine, qu'il faut... On est renversé d'entendre un discours comme ça dans la bouche d'Emmanuel Macron, qui était le porte-étendard du libéralisme économique en France. On s'est même opposé, imaginez, Emmanuel Macron est l'homme qui a vendu la section énergie d'Alstom aux Américains, à General Electric, à l'époque où il était conseiller économique de François Hollande. C'est vraiment quelqu'un qui disait, écoutez, on vend des bijoux de famille. On lui dit, mais vous vendez les bijoux de famille. Il dit, non, pas du tout, il n'y a pas de problème. On peut vendre cette section-là, d'ailleurs, qui est considérée économiquement pour une grande catastrophe, cette vente. Et le voilà qui refuse, par exemple, à Couche-Tard, d'acheter Carrefour.
En effet, par patriotisme, apparemment.
Il nous dit que Carrefour, qui est un des 7 distributeurs français d'alimentation en France, nous dit que c'est un secteur stratégique. Voyons.
En un mot, Christian Rioux, parce qu'il nous reste 10 secondes, est-ce que Macron est encore capable de gagner la prochaine présidentielle?
Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais que ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer à droite. Les grandes manœuvres, je dirais, dans la période, dans les mois qui viennent, ce sera à droite. Est-ce qu'on verra un nouveau candidat surgir de ce côté-là? Il y a une usure du pouvoir chez Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut pas le nier. Et les Français, vous savez,
ça
fait des années qu'ils n'ont pas donné 2 mandats à leur président. Hollande n'en a pas eu. Sarkozy n'a pas eu. Chirac en a eu, mais il y a eu une période de cohabitation.
Christian Rioux, correspondant du journal Le Devoir à Paris, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Allez vous reconfiner ou je ne sais trop ce qui se passe chez vous, mais faites attention.
C'est le couvre-feu.
À bientôt. Allez,
merci, au revoir.
Au couvre-feu, au revoir. Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit à la semaine prochaine pour une autre édition de Société. Merci d'avoir été à l'écoute.